À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Radis, la radio où on ne raconte pas que des salades, et vous êtes bien sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Joséphine, votre présentatrice, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves du club presse du lycée Albert Camus. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler de l'effet de groupe, sujet abordé dans la pièce « Le poids des fourmis », mise en scène par Philippe Cyr. Pour en parler, nous écouterons une interview menée par Esther, qui interrogera dans un premier temps Constance, une lycéenne, et nous accueillerons ensuite deux autres invités, M. Hübner, professeur en sciences humaines, et Mme Doucan, professeur documentaliste du lycée, pour recueillir leurs avis sur leurs pièces. C'est parti pour Radio Radis.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste. Esther, je vous laisse la parole.
Bonjour à tous nos interlocuteurs. Aujourd'hui, nous recevons Constance.
Bonjour.
Qui nous parlera en tant que lycéenne qui est allée voir la pièce. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans la pièce ?
Alors, la pièce aborde, c'est vrai, beaucoup de sujets, principalement de l'écologie. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'importance de l'effet de groupe dans tous les sujets sociaux, donc, dont l'écologie est un exemple, mais que j'ai pu voir dans la pièce.
Très bien, mais alors, c'est quoi l'effet de groupe ?
Oui, l'effet de groupe, c'est un phénomène où les individus cherchent à se conformer à la norme. Donc dans la vie de tous les jours, cela a des répercussions sur leurs actions, car ils vont donc toujours suivre des tendances. Et c'est connu depuis assez longtemps, déjà même en 1951, le psychologue Solomon H. publie une expérience sur le sujet.
Une expérience ?
Oui, alors concrètement, il met en scène un tour de table où 10 personnes sont présentes, mais il y a un individu qui est piégé. C'est-à-dire que 9 personnes sont complices de l'expérimentateur. Et on demande aux 10 personnes de juger la longueur de trait tracée sur une feuille. Et les 9 complices donnent vraiment une réponse fausse volontairement. Et en fait, on remarque que dans la répétition, on observait que dans 75% des cas, l'individu piégé répondait lui aussi de façon erronée pour se conformer à cette norme.
Ah oui, ça fait beaucoup. Avez-vous d'autres exemples dans la vie de tous les jours ?
C'est vrai que dans la pièce, l'effet de groupe est surtout visible lors de l'élection du président du conseil de la vie lycéenne. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, surtout au lycée. C'est vrai que le conformisme est partout et tout le monde cherche un peu à se ressembler. Donc autant sur les tendances musicales, les tendances vestimentaires... Même si j'avoue que depuis le lycée, je remarque ça moins qu'au collège, mais je trouve ça dommage qu'on développe moins notre individu et qu'on reste vraiment sur suivre la norme et suivre les gens, l'effet de groupe toujours.
Eh bien, merci beaucoup Constance pour avoir partagé votre ressenti par rapport à la pièce « Le poids des fourmis » avec nous.
Merci à toutes les deux. La suite arrive sur Radio Radis, juste après une petite pause musicale.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say.
no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory.
To shake my hand, I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense, no self-confidence, but you see, the winner takes it all.
On vient d'écouter The Winner Takes It All de ABBA. L'émission Radio Radis continue sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Nous allons maintenant écouter l'interview de Monsieur Hübner et Madame Doucan. Esther, je vous laisse la parole.
Merci et bonjour à vous, Monsieur Hübner et Madame Doucan. Est-ce que vous pouvez nous donner votre impression, ce que vous avez aimé sur la pièce? Monsieur Hübner, vous pouvez commencer.
Bonjour. Moi, j'ai apprécié beaucoup de choses dans cette pièce. J'ai passé un très bon moment. Mais si je devais retenir une chose peut-être en particulier, ce serait le personnage d'Olivier. Parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup évolué au cours de la pièce avec ses lectures, mais aussi le contact des autres personnages. Et à la fin, il dégage une grande force. Notamment, il y a un grand passage, il y a une longue tirade où c'est extrêmement impressionnant et il transmet des idées très fortes sur la pièce. Donc si je devais retenir une chose, ce serait celle-là, même si... En fait, il y a énormément de points que j'ai appréciés dans cette pièce qui était formidable.
Très intéressant. Madame Doucan.
Bonjour, merci de nous avoir invités. Alors moi, cette pièce, elle m'a paru vraiment très intéressante. C'était à la fois très drôle et évoquant tout un tas de sujets beaucoup plus lourds et sérieux. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le décalage et le côté burlesque. Par exemple, on n'a pas trop l'habitude de voir nos proviseurs en short claquettes. Et le fait aussi que ce soit une pièce québécoise ajoutait quelque chose de plus léger et nous obligeait à être particulièrement concentrés aussi sur les paroles des acteurs.
Merci.
C'est la fin de notre émission Radio Radis. Merci à Esther, Constance, Monsieur Hubner et Madame Doucan. Et merci à Camille, Claudine et Mina pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.
Merci.
Merci.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez France Camus sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Myriam, votre présentatrice, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves du lycée Albert Camus. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler de la pièce de théâtre Point des fourmis qu'ils sont allés voir le 19 février 2026. Pour en parler, nous écouterons d'abord Manon avec sa chronique sur l'éco-anxiété. Nous accueillerons ensuite notre invitée Lia, interviewée par nos deux journalistes, Lucie et Manon. Et puis nous finirons par une chronique sur la représentation des adultes dans cette pièce. C'est parti pour France Camus.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
Notre chroniqueuse Manon s'installe au studio. Comment vas-tu? Ça va?
Aujourd'hui, ça va très bien. Merci.
Aujourd'hui, tu viens nous parler de l'éco-anxiété.
Oui, parfaitement. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler d'un mot un peu étrange, l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est l'angoisse provoquée par les problèmes environnementaux, le réchauffement climatique, la disparition d'espèces animales, les incendies géants ou encore la montée des océans. Certaines personnes ont l'impression que l'avenir de la planète est menacé, et cela peut provoquer de la peur, de la tristesse, voire un sentiment d'impuissance. Mais face à la crise climatique, les réactions ne sont pas les mêmes pour tout le monde. On parle par exemple de climato-sceptisme. Certaines personnes doutent de la réalité du réchauffement climatique ou de son origine humaine. D'autres adoptent plutôt une forme de climato-relativisme. Elles reconnaissent que le climat change, mais pensent que ce n'est pas si grave ou que ce n'est pas la priorité. Et puis, il y a l'éco-anxiété. Quand la prise de conscience de la crise écologique provoque une inquiétude profonde pour l'avenir de la planète. Pour comprendre ces réactions, on peut penser aux travaux de la psychologue Elisabeth Kübler-Ross. Elle a décrit ce qu'on appelle la courbe du deuil, un modèle qui explique les différentes étapes que traverse une personne face à une perte ou à un choc. On y retrouve plusieurs phases, d'abord le déni, ensuite la tristesse, puis la colère, le découragement et enfin l'acceptation. Certains chercheurs expliquent que face à la crise écologique, beaucoup de personnes passent par les mêmes étapes. On peut d'abord minimiser le problème, puis ressentir de la colère ou du désespoir en prenant conscience de l'ampleur des changements. Mais l'éco-anxiété n'est pas seulement un problème. Pour certains psychologues, c'est aussi une réaction logique face à une situation réelle. Se sentir inquiet pour la planète peut aussi pousser à agir, changer ses habitudes, consommer autrement ou s'engager dans des actions pour l'environnement. Finalement, l'éco-anxiété nous rappelle une chose, la Terre est fragile et nous sommes tous concernés par son avenir. Alors peut-être que la meilleure réponse à cette inquiétude, c'est de transformer l'angoisse en action.
Merci, merci Manon. Tout de suite, on va passer à l'interview. Bienvenue à nos journalistes, Manon et Lucie. Alors, vous recevez aujourd'hui Lia, une militante écologiste de l'association Climate. Vous allez nous parler de l'activité de l'association. Je vous laisse la parole.
Alors déjà, bonjour Lia, merci beaucoup d'être venue.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est Climate et ce que vous faites ?
Bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors, Climate, c'est une association d'étudiants et de jeunes, au sens plus général, engagés pour le climat. On a plusieurs pôles de travail et de recherche, donc on fait de la recherche, du plaidoyer, de la sensibilisation. On a un pôle sur l'éco-anxiété, genre et changement climatique, injustice climatique, océan. Et SIS to Peace, c'est sur tout ce qui est négociation internationale et paix et sécurité environnementale.
Dans Le Poids des Fourmis, on voit des jeunes qui veulent agir, mais qui ont du mal à être entendus. Est-ce que vous ressentez parfois la même chose dans la vraie vie ?
Tous les jours. Non, parler de sujets aussi compliqués que l'écologie, c'est, sans jeu de mots, mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et c'est vraiment un problème qui entrelie plusieurs problèmes, comme le capitalisme et nos systèmes actuels de consommation. Ça remet en question beaucoup de choses. Et du coup, c'est très compliqué de parler de ces sujets. C'est très compliqué pour les gens d'accepter ces sujets. Et c'est compliqué parce que pour avoir une écologie, il faut remettre en question tout un système. Et des fois, on a l'impression que c'est trop gros. Mais donc des fois, ça peut être décourageant. Et des fois, on se sent un peu seul face au changement climatique, face à toutes ces questions. Mais moi, je pense que c'est mieux que de rien faire.
Pourquoi est-ce important, selon vous, que les jeunes s'engagent sur les questions climatiques ?
Parce que c'est notre futur. Déjà, les jeunes, on est les premiers impactés par les conséquences du réchauffement climatique et de toute la crise climatique. Ce sera notre terre à nous, demain. Il faut commencer dès maintenant à se sensibiliser pour pouvoir avoir un futur. Donc on est en première ligne et c'est compliqué parce qu'on est souvent les moins écoutés, les jeunes, on est la population qui est la moins écoutée. Mais je pense que c'est à nous de bouger les choix si on veut un futur.
Beaucoup de jeunes parlent aujourd'hui d'éco-anxiété. Est-ce un sujet que vous observez dans votre association ?
Oui, alors déjà on a un pôle éco-anxiété où on fait de la recherche, on fait des ateliers pour aider les jeunes à surmonter leur éco-anxiété parce que c'est un vrai problème. On a plusieurs personnes qui sont penchées sur la question de l'éco-anxiété, qui la vivent eux-mêmes. Et on a un atelier d'ailleurs, je serais ravie de vous inviter pour y participer.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est de rien, avec plaisir.
On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale.
I ain't gonna do
On vient d'écouter Respect d'Aretha Franklin. L'émission France Camus continue sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
Alors, pour finir, on écoutera encore une autre chroniqueuse de Lucie sur la représentation des adultes dans la pièce. Allez, on t'écoute.
Oui, tout à fait. Donc, dans cette pièce, les adultes sont représentés comme des acteurs du mal-être au sein de l'établissement scolaire et pour les jeunes adolescents. Ils apparaissent comme des personnes qui n'agissent pas, qui se désintéressent des problèmes de la société et qui abusent de leur pouvoir afin d'éviter de s'occuper des difficultés du quotidien et d'avoir des responsabilités. Les adultes incarnent le désespoir de la société et en montrent les conséquences. Selon moi, ce portrait peut être à la fois réaliste et exagéré. D'un côté, il peut sembler réaliste, car certains adultes dans les établissements scolaires ne réagissent pas face aux problèmes des élèves, comme le harcèlement ou le mal-être. Par manque d'attention ou parfois de compréhension, ils peuvent donner l'impression de ne pas s'intéresser aux difficultés des jeunes. Cependant, ce portrait reste aussi exagéré, car tous les adultes ne se comportent pas ainsi. Des enseignants et le personnel scolaire essaient au contraire d'aider les élèves, de les écouter et de trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. La pièce accentue donc volontairement ces défauts afin de critiquer certaines attitudes et de faire réfléchir le public sur la place et la responsabilité des adultes dans l'école et la société.
Merci beaucoup. C'est la fin de notre émission France Camus. Merci à Lucie, Manon et aussi à Lydia de l'association Climate. Merci aussi à Camille, notre réalisatrice de cette émission. Bonne soirée à tous et à toutes.
Bonjour à tous et à toutes, je suis Tristan, votre présentateur, et nous sommes sur Radio Campus Paris pour un autre épisode de notre émission Humour Vert.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Le monde est en crise. C'est ce qu'on peut se dire après avoir vu la pièce de théâtre Le Poids des Fourmis, mise en scène par la compagnie Théâtre Bluff. En effet, parmi les nombreux problèmes mondiaux tels que le sexisme, les crimes de masse ou la corruption, la pièce choisit de nous parler du réchauffement climatique d'un point de vue humoristique. Et c'est ce côté humoristique que nous retrouvons ici avec nos deux chroniqueuses, Luce et Héloïse, des lycéennes du lycée Albert Camus de Bois-Colombes et ayant vu la pièce au théâtre de l'Avant-Scène. Bonjour.
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 À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
Dans un premier temps, Luce, tu vas revenir sur la Bible des savoirs inutiles reçue par Olivier dans la pièce et qui l'a aidé à surmonter son éco-anxiété et à faire naître chez lui de l'optimisme.
Oui, en effet, dans la pièce, Olivier se réfère à ce livre, la Bible du savoir inutile, qui lui est donné par une femme énigmatique dans une librairie. Après quelques recherches, je me suis rapidement rendu compte que cet ouvrage n'existait pas vraiment. Il existe néanmoins réellement des livres du même genre, notamment pour les enfants. On trouve des encyclopédies multiples sur plein de sujets différents. Cependant, il me semble que ce livre est d'autant plus intéressant pour son symbole. Rien que par son nom, ce livre nous dit beaucoup de choses. Dans un premier temps, je vais m'intéresser à l'appellation Bible. On y voit directement une connotation religieuse. On peut noter également qu'Olivier voue une admiration immense à cet ouvrage. Nous pouvons alors parler du culte du savoir. Cette admiration est en effet dédiée au savoir contenu dans le livre. Le nom Bible nous apporte aussi une idée d'exclusivité, voire de supériorité. Les personnages Olivier et Jeanne sont en effet les seuls à avoir accès à ces connaissances. Ils agissent alors comme des porte-paroles et cela se voit de manière flagrante dans la pièce. Ce sont ces personnages qui dénoncent. Cela montre donc une forme de lucidité, ils voient ce qu'il se passe et cette lucidité est quelque part la voix de la raison qui nous pousse à agir.
Et quant au savoir inutile, que pouvez-vous nous en dire ?
Eh bien, on peut associer cette expression à la connaissance et à la culture. Ce savoir permet donc d'en connaître plus sur le monde, et cela est d'autant plus important qu'Olivier et Jeanne sont des adolescents qui se questionnent sur leur environnement. Cependant, le mot « inutile » a une connotation péjorative qui peut dévaloriser le savoir. mais on peut y voir une contradiction. Ces connaissances sont utiles et nécessaires, surtout pour Olivier. L'expression en elle-même, savoir inutile, paraît contradictoire. Le savoir n'est jamais vraiment inutile, il est toujours bénéfique pour au moins quelqu'un. On peut alors se demander si l'intention et le choix de ce titre n'étaient pas de minimiser cette réalité, ce savoir, ici le changement climatique, par l'adjectif qu'on lui a attribué. Pour conclure, au travers de cet ouvrage cher à Olivier, on distingue une nouvelle fois le rôle de porte-parole de la connaissance des deux personnages principaux. Tout au long de la pièce, on voit qu'ils ont un message à faire passer, un message d'urgence, qu'il nous est aujourd'hui impossible d'ignorer. Mais cette vérité est réduite par la société et en fait quelque chose d'inutile, ce qui est en réalité essentiel.
C'est un très beau message que vous nous apportez ici, Luce. Merci beaucoup. And your back is pretty tired, and we've drunk a couple bottles, babe, and set our grief aside. The paper says doomsday, the button has been pressed. We're gonna nuke each other up, boys, till old Satan stands impressed. And here it is, our final night alive. And as the earth burns to the ground, oh God, it's you that I lie with. As the atom bomb locks in, oh, it's you I watch TV with. As the world, on vient d'écouter As the World Caves In de Matt Maltès. L'émission Humour Vert continue sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Pour rester dans les savoirs inutiles, nous retrouvons maintenant Héloïse. Héloïse, tu vas maintenant nous partager quelques fun facts sur les fourmis, c'est bien ça ?
En effet, grâce à cette fameuse bible des savoirs inutiles, Olivier nous évoque à un moment donné le fait que même si les fourmis sont minuscules et composent moins d'1% des espèces terrestres, si on décidait de toutes les rassembler, leur masse excéderait celle de l'humanité. Ce passage m'a inspirée et j'ai donc décidé à mon tour de vous partager 10 fun facts sur les fourmis afin de vous faire penser à autre chose que l'actualité. Premièrement, Une fourmi ouvrière peut porter jusqu'à 1000 fois son poids en continu. C'est l'équivalent d'un homme portant 300 kilos en continu. Et si elles s'unissent, elles peuvent porter jusqu'à 2000 fois leur poids. 2. Il a été répertorié en 2023 qu'il existait plus de 16 600 espèces de fourmis. Et on considère qu'on ne les a pas encore toutes découvertes. Ça fait beaucoup là, non ? 3. Elles possèdent 2 estomacs. Un pour leur consommation personnelle et un pour faire des réserves. Ce qui explique sans doute le fait numéro 4. Elles existaient déjà à l'époque des dinosaures et ont survécu à l'ère glaciaire. Ce n'est donc pas vous et vos pieds qui essaient de les écraser, qui allez les anéantir. Ne niez pas, vous savez très bien de quoi je parle. 5. Elles sont partout. Leur population est particulièrement dense dans les milieux tropicaux. Cependant, rassurez-vous, chers auditeurs myrmécophobes, phobiques des fourmis. Il existe une solution. Elles ne sont en effet ni au Groenland, ni en Antarctique. Bon, il ne faut pas craindre le froid, mais ça reste une solution. 6. Si une ouvrière ne vit que 3 semaines à 1 an, une reine peut quant à elle vivre plusieurs années, une dizaine par exemple chez les fourmis rousses. Et les mâles, me direz-vous ? Leur vie est très brève, ils ne savent pas s'alimenter seuls et meurent donc après la reproduction. Pas de patriarcat chez les fourmis. 7. Le record de longévité est détenu par une reine fourmi noire des jardins, l'Asius niger, pour les scientifiques qui nous écoutent. Et elle est de... Une idée, Tristan ?
10 ans ?
Et non, c'est de 28 ans et 8 mois, en laboratoire, mais quand même. 8. Certaines espèces sont nomades et forment donc des nids provisoires appelés bivouacs, à partir de leur propre corps. Ce sont souvent des fourmis légionnaires d'Amérique du Sud et d'Afrique. Certaines espèces, toujours les fourmis légionnaires mais aussi des fourmis de feu, forment même des ponts ou des radeaux vivants où elles alternent leurs places afin de traverser des cours d'eau. Pratique. 9. Que nous a-t-on toujours appris sur les fourmis, Tristan ?
Qu'elles sont travailleuses.
Eh bien, c'est faux. Une étude visant à déterminer leur charge de travail a prouvé que 45% des fourmis d'une fourmilière sont inactives. Et enfin 10, les fourmis fascinent depuis très longtemps. Homère en parlait déjà dans l'Iliade et il n'est pas le seul. De nombreux romanciers s'en sont inspirés et ce, dans tous les styles. Des films de science-fiction, de fiction et d'animation en parlent. Elles ont un jeu vidéo qui possède même une extension et elles ont même une sculpture. Ce sont de véritables muses.
Eh bien, j'espère que vous avez réussi à partager votre passion pour les fourmis à nos auditeurs. Merci beaucoup, Héloïse. C'est maintenant la fin de notre émission Humour Vert. Merci à Luce et Héloïse pour leur chronique et merci à Claudine pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à tous et à toutes sur Radio Campus Paris. We'll be right back.